Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 137, ici Richard Delhomme sans filet qui ne prépare plus son texte. Aujourd'hui, je discute à nouveau avec Sofiane Sehili pour notre désormais traditionnel débrief trimestriel où nous revenons sur les derniers événements de la vie trépidante de Sofiane. Et je ne vois pas pourquoi je devrais vous en dire plus et vous expliquer pourquoi cet épisode est génial. Néanmoins, je me dois de corriger une erreur honteuse commise la semaine dernière puisque j'ai dédicacé l'épisode avec Gauthier à Raphaël. Or, je ne savais pas que Raphaël a un frère. Donc Ruben, écoute-moi bien Ruben. Je suis désolé, mais absolument navré. Alors tout cet épisode, il est pour toi, Ruben. À bientôt. Et sans plus attendre, donc, Sofiane Sehili. Et écoute, on ne va pas laisser quelques menus soucis techniques s'interposer entre nous, donc je vais te poser la même question. Si tu devais définir ou résumer ton année en un mot, et là tu as eu le temps d'y réfléchir, c'est très bien de peaufiner ton... n'est-ce pas ?
On dit moins de bêtises quand on réfléchit.
Ouais, ou on peut dire encore plus si on ne se maîtrise pas, mais si on réfléchit trop, on peut aller aussi, on peut surintellectualiser le truc et dire encore plus de conneries que si on était naturel.
Pas de langue de bois, monsieur Delhomme.
Ça, je peux t'en parler, hein. Dire des conneries, c'est une de mes grandes spécialités, ouais. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant, donc voilà. Donc, un mot pour résumer une année de Sofiane, ça veut dire, c'est quoi ?
2021, je dirais le mot, c'est pleine. Ça a été vraiment une année qui a été remplie d'événements à partir du moment où je me suis remis de ma blessure, où ma convalescence a été terminée. J'ai enchaîné, j'ai vraiment enchaîné jusqu'à pratiquement la semaine dernière. Quoi.
Bah oui.
J'étais toujours sur la route, toujours soit un trip solo ou un trip avec Fanny ou une course ou un événement. Et j'ai vraiment été sollicité toute l'année, ce qui est très bien, hein. je ne m'en plains pas, mais ça a été vraiment une année pleine. Ouais.
Et donc, à l'instant, avant nos soucis techniques, tu m'avais dit année fatigante. Et quelle est la différence selon toi, avec un petit peu de réflexion en plus, pourquoi tu passes de fatigant à pleine ?
Parce que l'un, en fait, découle de l'autre. L'année a été fatigante parce qu'elle a été pleine, mais en fait, je préfère retenir le fait qu'elle a été pleine parce que au final, c'est positif. Alors que fatigant, oui, en effet, certes, j'ai dû énormément dormir pendant 2 mois après la Silk Road Mountain Race, mais je préfère être fatigué d'avoir fait plein de choses que d'en faire moins et d'avoir une vie moins trépidante.
Est-ce que malgré tout, d'être, comme tu le dis, souvent sur des événements, ou en tout cas loin de chez toi, loin de ta famille, est-ce que ça génère malgré tout une petite forme de frustration au bout d'un moment, où est-ce que tu te dis pas, tiens, j'aimerais m'arrêter un instant, ou il faut tenir jusqu'à fin novembre, ou je ne sais quand ?
Je dirais pas que c'est une forme de frustration, je le tournerais dans l'autre sens où je dirais que quand je rentre à Paris, quand je suis chez moi, quand je vois ma famille, quand je vois mes amis, je l'apprécie d'autant plus. Et je suis pas pressé de repartir, quoi. C'est-à-dire, je suis pas dans une logique comme quelqu'un qui aurait 5 semaines de congés payés par an à compter les jours avant de partir quelque part. Au contraire, quand je rentre, je me dis je suis content. La dernière fois que je suis rentré, j'ai passé 2 semaines complètes à Paris. Ça m'a fait plaisir de me poser, de voir du monde et de faire des choses différentes, plus calmes. Le soir, regarder des films et pas être tous les jours sur la route, tous les jours sur un endroit différent, tous les jours refaire son sac. Donc, je dirais que c'est une vie que je choisis parce que je l'aime. Et je préfère retourner la question dans le sens et dire, voilà, quand je rentre, quand je suis chez moi, quand je suis avec mes proches, je suis content, je suis plus content.
Tu apprécies d'autant plus ces moments parce qu'ils sont rares, donc.
Exactement, ouais.
Et du coup, ton année 2022 va être faite de quoi?
L'année 2022, elle risque d'être au moins aussi chargée
La
parce que je
blessure en
suis en train
moins?
de... Pardon?
La blessure en moins?
La blessure en moins, ouais. Mais finalement, cette blessure, elle m'a cloué au lit que pendant quelques semaines. Et après, dès le mois de mars, j'étais en train de rouler. Dès le mois d'avril, j'étais parti de Paris. Mais c'est vrai que là, la blessure en moins, c'est-à-dire que dès le mois de peut-être janvier, voire ou plus tard février, je serai de nouveau sur le pont et je pense que je peux clairement enchaîner jusqu'à septembre, en octobre, entre des événements compétitifs ou non, et après des choses que moi j'ai envie de faire en solo ou avec quelqu'un pour m'accompagner, mais ouais, déjà beaucoup de vélos prévus dans l'année prochaine, dans un mois, quoi.
Ça veut dire que tu vas retourner à l'Atlas?
Ça veut dire que je vais retourner à l'Atlas. C'était difficile pour moi de ne pas y retourner, même si je m'étais dit que la page était tournée, puisque j'y étais allé, j'avais gagné, et je ne pensais pas être capable de faire mieux en termes de temps. Mais c'était il y a 2 ans maintenant, et je pense que ça va être un des grands grands moments de la saison de bikepacking. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grands noms, et je sais que je serais frustré si j'étais juste derrière mon écran en train de dot watcher et de voir tous les meilleurs de la planète qui s'affronteraient, et sont moi, quoi. Donc je connais le parcours, et j'ai pas pour habitude de retourner sur un parcours que je connais. Parce que c'est pas juste un sport, en fait, c'est aussi une aventure, c'est aussi des voyages. Mais là, le côté sportif, le côté compétition, m'attire trop. Il va y avoir trop de monde pour que j'y aille pas, quoi.
T'as une idée un petit peu des noms présents déjà?
Alors moi, ce que je sais de qui était inscrit l'année dernière et qui donc va potentiellement être là pour cette année, il y aura le retour de James Hayden, il y aura probablement Jay Peterbarek qui reviendra aussi. Il y aura Rodney Sonko qui est connu des amateurs du Biking Man. Il y a aussi Jochen Boringer qui a fini devant moi à la Hope 1000 l'année dernière. Donc ça, c'est les. Il y aura Mattia Demarchi aussi qui a gagné Badlands cette année qui sera là. Donc ça, c'est tous les gens qui vont venir et qui ont vraiment des très hauts profils et sur lesquels moi je sais qu'ils étaient inscrits cette année alors que ça a été annulé. Et après voilà, il y a toujours les petites surprises. Il y a Christian Mayer qui est censé aussi revenir, et il y a toujours les petites surprises de dernière minute de gens qui vont venir. Mais je pense que ça va attirer beaucoup de monde et ça va être un feu d'artifice et qu'il faudra être là, quoi.
Qu'est-ce que ça va changer pour toi sur la ligne de départ de te dire, il y a 2 ans, entre guillemets, j'ai gagné haut la main, parce que, bah, mis à part la mésaventure de Christian Mayer, tu as quand même bien survolé le truc. Là, tu vas te retrouver dans une densité pratiquement inédite, parce que même si tu as vécu une grosse densité cette année sur quelques épreuves, là, la densité ne fait que grossir, grossir et grossir, en plus avec des ex-pros. Christian Mayer l'était, Mattia Demarchi aussi, et ça ne fait que grossir, grossir, grossir. Comment tu vas adapter ta stratégie justement par rapport à
Je
ça?
pense que sur une course telle que l'Atlas, les pros ont peut-être un peu moins d'avance que sur une Badlands, par exemple. Une Badlands où on est sur des courses qui vont faire entre 40 et 50 heures. L'Atlas, on est quand même sur des 4 jours, quoi. Donc c'est 2 fois plus long, c'est une gestion différente. Faut aller mentalement piocher dans d'autres réserves, faut être capable de se priver d'encore plus de sommeil. Moi, je pense que c'est des distances où je suis encore très compétitif. Je pense que sur des distances sur Badlands, c'est certainement trop court pour moi, notamment avec l'arrivée de beaucoup d'anciens, voire actuels pros sur ces événements-là. Mais je pense que j'arriverai quand même assez confiant à l'Atlas. Parce que je pense que je serai aussi, je connais le parcours, donc là c'est déjà un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas auparavant. Je pense que je serai aussi mieux équipé en termes de vélo. Je vais venir avec une suspension avant cette fois-ci, ce qui va changer énormément de choses.
Je voulais t'en parler de ça, oui.
Ouais, ça va changer énormément de choses sur un parcours aussi dur que celui de l'Atlas. Ça va me permettre d'aller plus vite, tout en me reposant davantage, d'être moins cassé à la fin de la journée. Et c'est pas encore exactement ce que je vais faire comme préparation pour l'Atlas, mais j'ai deux trois petites idées d'entraînement qui pourraient me permettre d'arriver là-bas bien affûté, et il va falloir, c'est sûr, de toute façon, aller encore plus vite qu'il y a deux ans.
Quand tu me dis j'avais pas l'intention de revenir parce que je vois pas comment je pourrais améliorer mon temps, mais en même temps il y a 2-3 jours sur Instagram tu as mis une photo de la Silk Road où on te voit changer une chambre à air et tu dis qu'il faut maîtriser de nombreuses compétences. Est-ce que le temps ou la vitesse à laquelle tu vas rouler, ou en tout cas le sommeil que tu vas réussir à diminuer, est la seule compétence que tu dois encore améliorer? Ou poser différemment, quels sont encore tes axes d'amélioration? Où est-ce que tu peux encore progresser?
Pour les personnes qui me suivent, j'ai changé de sponsor. Je suis maintenant chez Vitus et j'ai testé un VTT cross-country avec une suspension avant sur l'événement Grande Guanche aux Canaries. Et je me suis rendu compte que ça n'a vraiment rien à voir, quoi. J'étais venant à la base du Tour Divide, où je pense qu'une suspension n'est pas vraiment nécessaire. J'étais toujours dans cette optique de se dire voilà, plus rigide, plus léger, moins de risques de panne, hein. C'est vrai qu'une fourche suspendue c'est plus risqué qu'une fourche rigide, hein. Il y a des éléments mécaniques. Donc c'est pas aussi fiable qu'une fourche rigide. Donc j'ai été en rigide pendant 2016-2021 pendant 5 ans, quoi. Et là en passant suspendu, je me suis rendu compte de la vitesse qu'on gagne quand on descend sur des parcours qui sont cassants. Ouais. Ça va tellement plus vite, quoi. C'est-à-dire que je roulais avec Josh Ibet. Qui a un niveau de VTT bien supérieur au mien, parce que lui il fait du VTT depuis qu'il est gamin et il a commencé sur des courses de marathon XC. C'est un excellent pilote, alors que moi je viens du cyclotourisme et je fais du off-road depuis 6-7 ans, quoi. Et malgré tout, en fait, lui, comme il était en gravel avec sa fourche rigide, quand ça tabassait sur la piste, j'allais plus vite que lui, quoi. J'allais plus vite que lui, alors que j'ai pas son niveau. Mais il y a une vraie différence. Donc je pense que ça va déjà m'aider à aller plus vite sur l'Atlas. Après, les axes d'amélioration. Moi, pourquoi je dis que je vais avoir du mal, je pensais avoir du mal à aller plus vite sur l'Atlas, c'est que sur l'Atlas, je suis vraiment arrivé, j'étais en mission. J'étais vraiment en mission, j'étais là pour gagner, j'étais là pour faire vraiment être à 100%, quoi, être à 100% tout le temps, et c'est vraiment, je pense, c'est un peu comme un peintre qui peint son chef-d'œuvre, quoi. Sur l'Atlas, tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu, tout a été vraiment sans aucune anicroche, rien du tout, et c'est pour ça, ça fait partie des courses où je me dis comment je pourrais améliorer ça. Je pense qu'il y a toujours quelques petits ajustements à faire, qu'on peut gratter un petit peu. clairement, quand j'arrive sur le dernier checkpoint à l'Atlas, j'ai une telle avance, j'ai 5 heures. J'ai 5 heures d'avance sur James, que après, entre checkpoint 3 et le finish, je me suis relâché. J'ai pas du tout avancé comme sur les trois premiers quarts de la course. Donc ça fait partie des éventuellement de le dernier quart de la course, d'un moment où je pourrais gagner un peu de temps. Ouais, c'est difficile de parce que sur une course comme l'Atlas par exemple, ouais, évidemment, il faut arriver fit, il faut arriver bien entraîné, mais c'est pas non plus une course route où finalement la puissance qu'on va être capable de mettre dans les pédales va être déterminante. C'est beaucoup plus dans la tête, le off-road, quoi. Ouais. Le off-road, c'est beaucoup plus mental qu'une ultra sur route. Et moi, il y a 2 ans, quand je suis arrivé sur l'Atlas, mentalement, j'étais Terminator, quoi. Je voulais absolument rien lâcher, j'ai rien lâché et j'ai fait exactement ce que j'étais j'avais l'intention de faire quand je suis venu, quoi.
Est-ce que t'as pas peur qu'il y ait une forme de lassitude avec l'enchaînement des épreuves et que tu sois pas toujours capable de venir vraiment en mission et d'être au maximum de tes ressources psychologiques?
Si, ça, c'est sûr que ça arrive.
Tu l'as ressenti cette année déjà?
Je l'ai ressenti cette année, ouais, bien sûr, je l'ai vu. Je pense que de toute façon, quand on voit ce que j'ai fait l'année dernière, quand je fais 5 ultras, 5 ultras, 2 victoires, 2 deuxième places, il faut tellement se remobiliser après, tu vois, quand je fais 2 sur la Three Peaks et une semaine après, je suis sur la French Divide et avec l'ambition de gagner. Mentalement, c'est épuisant, quoi. Je sais pas si on a un capital dans lequel on puise et qui, au bout d'un moment, s'avère être vide. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de plus en plus facile, en fait, tu vois. Parfois, là, quand j'étais sur la Silk et qu'il était 22, 23 heures, minuit, et que ça faisait 3, 4 heures qu'il faisait nuit et tout, même si je m'endormais pas, tu vois, l'idée de passer la nuit complète à rouler pour aller jusqu'au finish et tout, ça me détruisait mentalement, quoi. C'est-à-dire que je m'arrêtais même pas parce que j'étais en train de m'endormir sur mon vélo, ce qui est logiquement ce que je devrais faire. Je m'arrêtais parce que j'en avais marre, quoi. J'en avais juste marre de me faire taper dessus par cette route et je me disais, je veux juste faire une pause, quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a peut-être un moment où on est là, on commence, on débute, on progresse mentalement, on est là, on devient de plus en plus fort. Et peut-être qu'à un moment, on atteint un plateau. Et qu'il y a comme une espèce de syndrome post-traumatique où quand on arrive pour s'élancer en se disant bah voilà, là je suis parti pour faire la nuit, on a tous ces souvenirs de nuit horribles sur des courses qu'on a pu passer et ça devient peut-être de plus en plus compliqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment eu toute une période où je me disais ouais, ça va, c'est de plus en plus facile, mais cette période elle est terminée. J'ai vraiment pas l'impression que c'est de plus en plus facile. Si j'ai une impression, c'est que j'ai de plus en plus de mal à le faire. Donc moi, clairement, maintenant, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai prouvé, et avec mon palmarès et le fait que j'arrive maintenant à vivre de ça, mon objectif, c'est pas de faire 5 courses dans l'année où je vais les faire à fond, c'est plus de repérer, cocher une ou deux cases, dire « Ok, cette année, ça va être ci et ça, et là, je vais arriver en mission commando ». Et après, sur le reste, l'idée, c'est de trouver d'autres challenges, d'autres manières de le faire, venir prendre du plaisir quand même. Ce que j'ai pu faire sur la Tuvokane Sprint, par exemple, quand j'étais en paire avec Adrien. Ouais. Essayer de trouver d'autres choses à faire dans ce sport, des choses qui ne sont pas arrivées pour gagner et mettre absolument tout ce qu'on a, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas tenable.
Est-ce que ton, entre guillemets, exploit de réussir à en vivre maintenant, parce qu'on peut quand même parler d'exploit, vu que vous êtes finalement très très peu à en vivre, finalement, est-ce que ça rajoute une pression de devoir te dire, ou en tout cas cette année, pour confirmer vraiment ton niveau, tout ce que tu as fait, Est-ce que ça a été une pression supplémentaire, justement, de te dire je dois aller faire ci, je dois aller faire cette course, je dois apparaître médiatiquement? Et est-ce que, justement, à l'avenir, c'est ce que tu viens de me dire, finalement, que tu vas cocher 2-3 épreuves vraiment phares où là tu seras à bloc, et d'autres où tu te contenteras de rouler, enfin de les faire, et mais surtout d'être présent médiatiquement et pas forcément sportivement? Même si sportivement, vu ton niveau, tu seras quand même pas loin de la tête, ouais. Mais tu seras pas au maximum de ton niveau, loin de là.
Alors moi, j'ai déjà assez de pression de ma part. Je me mets déjà énormément de pression sur les épaules. Je ressens aussi une pression, une attente de la part de tous les gens qui peuvent me suivre. Donc, en soi, la pression des sponsors, elle est quasiment inexistante. Il faut savoir qu'un sponsor, que je finisse premier, deuxième, cinquième, dixième, ça ne change rien pour lui en fait. L'idée pour le sponsor, c'est que moi, je transmette une image positive, j'inspire ma communauté et que je fasse ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire rouler avec leur vélo, leur matériel et en étant moi, quoi. S'il y a une chose à retenir finalement du sponsoring, c'est que les marques aujourd'hui dans le bikepacking, elles sponsorisent une personnalité avant de sponsoriser des résultats. Donc moi, je ressens pas de pression de la part de mes sponsors. Au début, quand j'ai commencé à en avoir, je pense que la première course où j'arrive et où je suis un peu plus sponsorisé, ça doit être la Hope 1000 où je fais deuxième. Je me souviens que j'ai envoyé des mails à mes sponsors pour m'excuser de ne pas avoir gagné. Et ils m'ont dit non, mais enfin, c'est pas grave en fait, on s'en fout que tu gagnes, que tu gagnes pas, ça change rien pour nous, quoi. Donc moi, je gère ma carrière entre guillemets comme je l'entends. Je fais les événements parce que j'ai envie de les faire. Je me sens pas obligé d'y aller parce que je dois représenter un sponsor ou parce que je dois offrir de la visibilité à un sponsor. J'y vais, là par exemple, si on regarde Grand Guanche aux Canaries, j'y vais parce que juste, bah, c'est quand même plus cool d'aller faire du vélo aux Canaries que de rester à Paris sur mon canapé regarder Colombo, quoi. Donc en soi, le fait d'être sponsorisé, pour moi, c'est que du bonus, quoi. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui je vis de ma passion. Je suis défrayé sur certains événements où quand je suis à la Badlands par exemple, bah moi j'ai rien sorti de ma poche. Quand je suis allé sur la Silk Road, pareil. Donc c'est juste 100% de bonus. Je vois pas vraiment d'inconvénient à être passé 100% professionnel. Et encore une fois, moi j'ai jamais un sponsor qui m'a dit ah ouais, on aimerait bien que tu fasses cette course plutôt que celle-là. J'ai jamais un sponsor qui m'a dit ouais, bon bah là c'est vrai que t'as été blessé pendant l'hiver, t'as pas fait grand chose, c'est un peu chiant et tout. Non du tout, quoi. Tant que moi je fais des choses, je communique, je suis proche de ma communauté, je reste moi, je reste authentique, ils sont contents.
Donc ils t'incitent pas à rouler sans casque?
Non, ils m'en citent pas à rouler sans casque.
Ça, c'est vraiment une décision très très personnelle.
C'est tout à fait personnel.
Et quand tu me dis la pression, je me la mets tout seul, est-ce que tu as encore besoin de quelle pression tu parles? Ça veut dire que tu as quel niveau d'exigence avec toi-même?
Je pense que j'ai envie de gagner. Quand je cible un événement en me disant bah voilà, j'y vais pour gagner, enfin voilà, la pression que je me mets, c'est ça, c'est la pression de la victoire. C'est pas forcément la pression d'un temps ou de me dire ok, je dois vraiment faire donner le meilleur de moi-même. Si on prend l'exemple de l'Atlas, ce que j'expliquais, c'est que j'ai été complètement à bloc pendant les trois quarts de la course, et quand j'ai su que James il pourrait pas me rattraper, voilà, je me suis un peu relâché. Je me suis dit c'est bon, la victoire je l'ai assurée et c'est ce qui m'importe. Mais c'est cette pression là que je me mets, quoi, la pression d'arriver. Alors je me la mets plus sur tous les événements, mais voilà, quand j'arrive sur une Silk Road cette année par exemple, la pression que je me mets, c'est de dire ok, faut gagner.
Et sur l'Atlas, quand tu te relâches, est-ce qu'avec le recul, t'as pas l'impression que... Est-ce que tu t'es relâché uniquement pour assurer les 5 heures d'avance, ou est-ce que tu t'es vraiment relâché et avec le recul, peut-être qu'il aurait pu t'arriver quelque chose, taper dans un caillou, tomber, faire n'importe quoi qui pouvait compromettre ces 5 heures d'avance, qui sont à la fois confortables mais qui peuvent s'évanouir très vite si tu casses un dérailleur.
Alors ouais, moi j'ai vraiment eu ce sentiment. Je me souviens quand je suis parti du CP3 et que je voyais qu'il restait, je sais plus combien il restait, peut-être 200 bornes, un truc comme ça. Je me suis dit c'est impossible quoi. Je dis il peut pas me rattraper et après en plus j'ai une telle confiance en ma bonne étoile que je me disais maintenant que j'ai assuré ça, oui il peut toujours arriver un truc, tu vois. Mais je me suis dit, mais c'est pas, en fait, ça va pas m'arriver. J'avais vraiment cette conviction intime et profonde que ça m'arriverait pas. Et je me souviens, j'en parlais avec un ami proche qui, avant la course, m'avait dit, tu vas y aller, tu vas gagner parce que c'est le plus fort. Et je me souviens, il restait, je sais pas, peut-être 150 mètres, un truc comme ça, et j'ai envoyé un message, je lui ai dit, bah, ouais, en fait, t'avais raison, quoi. Et il m'a dit, mais c'est pas fini encore. Je lui ai dit, non, mais c'est pas fini. Mais voilà, James, il est 5 heures derrière, il reste 150 bornes, c'est fini, quoi. Et j'avais vraiment cette conviction intime que les choses s'est passées tellement bien depuis le début, s'est passé tellement de la manière dont je les avais prévu, que j'étais tellement sur des rails que voilà, c'était mon destin, c'était pour moi et personne ne pouvait me la voler. Après, je me suis relâché. J'ai fini avec 2h30 d'avance alors que j'avais 5 heures au CP3 et je m'en suis voulu. Je me suis dit, bah ouais, non, c'est nul, t'aurais dû continuer à bloc. Pourquoi à tel moment tu t'es arrêté alors que t'avais pas besoin? Pourquoi à tel moment tu t'es assis pour manger alors que tu l'avais jamais fait et tout? Et je m'en suis voulu à posteriori parce que je me suis dit, voilà, t'as donné le meilleur de toi-même sur 75% du temps et sur les 25 derniers pourcents, bah t'as cruisé quoi. Et je voulais, en fait, quand j'ai passé cette ligne d'arrivée et que James est arrivé 2h30 après, je me suis dit, ah ouais, il est quand même pas loin, le salaud, quoi. Et moi, dans ma tête, une fois que j'avais gagné, bah, je voulais plus que ça, tu vois. Je voulais avoir fait une démonstration, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, bon, il est que 2h30 derrière, c'est pas une démonstration, quoi. Donc, ouais, je m'en suis voulu un petit peu après, quand même.
Attends, je me rebranche juste un instant. Voilà, tac. Et voilà. Je reviens sur la fourche. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette découverte un petit peu sur le tard quand même? Que oui, une fourche télescopique, c'est pas fait que pour absorber des gros drops, ça permet aussi de descendre plus vite.
Non, mais je regrette tellement. parce que là sur la Silk, où c'est une course qui est encore plus longue, que c'est deux fois plus long. Enfin, c'est pas deux fois plus long en termes de kilomètres, mais en termes de temps que tu passes dehors, c'est deux fois plus long qu'une Atlas. Mmh. Et c'est tout aussi cassant, si ce n'est plus. Et en fait, quand j'ai terminé la course, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool, c'est bien, j'ai gagné. Mais il y a plein de moments où j'ai juste pas pris de plaisir. Et si j'avais eu le vélo adéquat, j'en aurais pris, quoi. Et on fait pas juste ça pour gagner, quoi, tu vois. On fait ça aussi ça pour prendre du plaisir, même si les gens ont peut-être du mal à se rendre compte qu'on arrive à prendre du plaisir, qu'on roule autant et qu'on se fait aussi mal. Mais on en prend. Et ouais, là, je me suis dit, c'était vraiment un super événement. C'était vraiment une course incroyable. Mais je l'ai un petit peu gâché en n'ayant pas le vélo adéquat. Et tous ces moments où j'étais juste en train de pester et de me faire tabasser par les cailloux, j'aurais pu passer de bien bien meilleurs moments si j'avais eu le matériel adéquat, si j'avais une bonne fourche. Donc ouais, je regrette largement de pas l'avoir fait avant, quoi.
Tu te rappelles qu'on avait fait l'épisode après la Hope, on en avait parlé parce que justement, comment il s'appelle, Jürgen, c'est ça?
Jochen.
Jochen, ouais. qui était devant toi, était en tout suspendu, et je t'avais posé la question à ce moment-là, et t'étais un peu perplexe, tu me disais, ouais, non, je sais pas, c'est un bon pilote, mais je sais pas si je serais allé plus vite, et t'es donc clairement encore très attaché à la rigidité, et aujourd'hui, bah, c'est bien, c'est rigolo que tu changes radicalement d'avis, ce qui est aussi une très bonne nouvelle.
Alors ouais, alors attention,
il y a un axe d'évolution.
La Hope et l'Atlas et la Silk, c'est pas pareil. La Hope, il y a énormément d'asphalte. Si je repartais sur la Hope aujourd'hui, je ne sais rien si je prendrais une fourche suspendue, par exemple.
Mais on peut la bloquer, donc ça fonctionne aussi pas mal.
Ouais, hein. Ouais, je sais, mais il y a quelques passages où elle serait utile, mais elle serait beaucoup moins utile que sur une Atlas ou sur une Silk. Donc je reviens pas forcément sur ce que j'ai dit, mais je pense que si je revenais sur une Hope, je changerais des choses, mais je changerais pas forcément le fait d'avoir une fourche rigide. Je sais pas si ça me ferait aller plus vite, beaucoup plus vite d'avoir une rigide. Après, la Hope, c'est avant d'être cassant, c'est pas spécialement cassant, c'est plus technique. C'est plus de single track un peu chiant où il faut vraiment être un bon pilote, et surtout c'est énormément de dénivelé positif, et Jochen il fait 12 kilos quoi, faut le regarder hein. Il a vraiment c'est vraiment un grimpeur, il est pas très grand, il est tout sec, il est sur un événement comme ça, je pense que j'aurais dû arriver peut-être beaucoup plus léger, faire une préparation pour perdre des kilos et me dire ok voilà, j'ai 30 000 mètres à grimper, j'ai un mec qui fait 50 kilos devant moi, il faut que je trouve une solution pour tenir le rythme quoi.
Est-ce que dans la gamme Vitus il y a un tout suspendu cross country qui serait plutôt axé
il y a tout dans la gamme Vitus, je t'invite à regarder leur gamme.
J'ai pas encore eu le temps. Ouais. J'ai vu ça la semaine dernière. J'ai pas encore eu le temps.
T'as du cross country hardtail, t'as du cross country tout suspendu, t'as du all mountain, t'as du enduro. T'as du carbone, t'as de l'alu. Si tu veux et franchement, enfin moi le vélo que j'ai emmené là sur Grand Guantier, on parle d'un cross country carbone avec une fourche RockShox qui fait 1,3 kg en Shimano XT 12 vitesses avec des périphes Ritchie, le truc il sort à moins de 3000 euros quoi. C'est vraiment, enfin moi je l'avais, j'étais comme un fou dessus, c'était trop bien d'avoir ce vélo. C'est pour le coup, c'est vraiment des vélos qui sont au niveau du prix.
C'est bien étudié.
C'est un rapport qualité-prix qui est assez impressionnant, quoi.
Et t'auras la possibilité d'utiliser un tout suspendu, parce que là, pareil, hein, c'est un choc hein, quand tu découvres un tout suspendu.
J'aurais cette possibilité. Après, je sais pas sur quel événement, pour moi, ce serait pertinent, quoi.
Bah sur un truc cassant, en tout cas.
Ouais.
Sur un truc où il y a de la montée, non seulement de la descente qui tape, mais aussi de la montée un petit peu fuyante.
Ouais.
Parce que la suspension, pense aux suspensions de voiture, elles servent à la traction aussi, elles ne servent pas qu'à amortir. Elles servent aussi à garder les pneus collés au sol.
Je sais pas, j'en parlais avec Joe Chibet, là, au Canary. Lui, il n'est pas du tout fan de tout suspendu, même pour un truc très, très cassant et très technique comme la Highland Trail. Lui, il préfère avoir juste une suspension à l'avant. Bon, après, peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, je deviendrai, mais pour l'instant, je suis déjà content d'avoir une suspension arrière.
Ouais. La suspension arrière, elle a qu'un petit problème pour nos disciplines, c'est que ça complexifie un petit peu les sacs, en fait.
Ah bah oui, clairement, ouais.
Tout ce qui est sac de cadre, ça devient compliqué.
Ouais.
Fourche télescopique, tige télescopique. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent un adaptateur, parce qu'évidemment, si tu baisses ta selle, tu baisses le sac. Là, c'est un peu le bordel.
Ouais.
Et puis, le truc qui manque vraiment, c'est des fourches télescopiques avec des fixations, tout simplement, parce que là, c'est très VTT encore. Mais c'est ça qui va manquer. Et un vélo comme le tien, qui est super, ou d'autres, ce qui va manquer, c'est de la fixation diverse pour vraiment qu'il soit très spécifique à notre discipline, et pas juste se dire, il y a des gros pneus, il y a une suspension, prenons-le.
C'est encore le trou qu'il y a maintenant entre des machines de cross-country qui sont vraiment faites, qui pour moi sont vraiment idéales pour une Atlas ou une Silk. Et James, lui, il vient même maintenant avec des tout suspendus. Hein. Et le trou qu'il y a maintenant, c'est voilà quoi. Quand on prend ces cadres-là, tu vas avoir de la place pour mettre un porte-bidon et point barre quoi. Tu vas pas avoir de place pour mettre un porte-bidon sous le cadre, tu vas pas avoir de fixation pour mettre ta sacoche de top tube, tout ça. C'est un peu le gap qu'il y a à franchir maintenant entre la machine de cross-country et la machine de bikepacking. Il faudrait essayer de faire un hybride, un truc qui soit vraiment voilà quoi, un vélo Atlas / Silk, dire ok, c'est on a besoin de beaucoup de confort, mais on a quand même besoin de transporter des choses.
Ouais. Bah, ça viendra, mais bon, faut pas non plus trop en demander aux marques qui viennent juste de comprendre l'intérêt de mettre des pneus plus gros que 45, donc pas toutes les émotions d'un coup tout de même. Hein. est-ce que tu... Parce que là, tu viens de l'expérimenter sur ton VTT et Josh Hibbett était en gravel rigide. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de l'idée de la mettre sur ton gravel pour des parcours légèrement plus roulants, enfin moins cassants, mais un tout petit qui tapote un petit peu avec du petit caillou. Faudrait que tu essayes ça aussi.
Ouais, je suis pas super convaincu, je vois pas trop l'intérêt en fait.
Faut que t'essayes.
Non mais en fait moi grosso modo maintenant quand je pars sur un événement, soit je me dis ok ça va être gravel propre, ça va pas trop taper et je mets mes pneus de 48 et je pars en rigide. Soit je me dis ok c'est on est en Europe, ils disent gravel, je sais très bien qu'en fait ça existe pas. Et je viens avec mon VTT, quoi. Mais après, j'ai quand même envie de me servir de mon gravel de temps en temps, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, on va parler de Badlands. Ouais. Bon, Badlands, c'est limite, hein. Je vois, il y a des moments où j'étais là, je me disais, un VTT, ce serait pas mal. Mais ça passe encore, parce que c'est 700 bornes. Donc, 700 bornes, même si t'es pas super confort de temps en temps, tu te dis, bon, ok, d'accord. C'est un peu tapé là, mais ça va être plus sympa après, quoi.
Je me pose la question pour Badlands parce que c'est pas en termes d'amorti, de choc ou de caillasse, parce que j'ai l'impression que même s'il y a des passages qui cognent un petit peu, ça reste quand même extrêmement minoritaire. Par contre, apparemment, le sable se dérobe un petit peu dans les virages, ça peut glisser un petit peu, et la suspension, c'est ça aussi, c'est l'adhérence. Et je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir un petit peu d'adhérence à l'avant.
Ouais, moi je. Ouais, non. Après, c'est sûr qu'il faut être prudent dans les virages parce que c'est poussiéreux. Après, t'as quoi comme suspension sur ton gravel aussi?
Ah bah, j'en ai pas en ce moment, j'en ai plus. J'ai rendu le Niner. Tu pourras les saluer de ma part si tu veux, t'as des bons souvenirs.
Zach, tu nous écoutes.
Là j'en ai plus, mais tu vois ça pourrait être une RockShox Rudy avec 3 cm de débattement et ça peut être extrêmement c'est ce que j'avais sur le Niner. C'était pas celle-ci, mais j'avais 3-4 cm et tu le sens, hein, y a rien à faire, hein. Dans les virages on le sent, c'est collé, et au lieu de rebondir et de se prendre un coup de bambou en retour, ça reste collé, ça c'est vraiment cool. Mais est-ce que c'est suffisamment technique avec des virages en épingle pour justifier un truc, ou est-ce que le gain de temps va justifier d'emmener le poids supplémentaire? Est-ce qu'un petit regain de prudence ne suffirait pas?
Après, ça dépend aussi de la largeur de tes pneus. Tu vois, moi, je suis parti en... Il y a quand même des passages qui sont. Il y a un passage, je me souviens, le deuxième jour, moi, qui est, pour le coup, c'est vraiment du VTT, c'est vraiment technique, quoi. Faudrait vraiment venir avec un dropper. Et ta fourche suspendue et tout, parce que là, en gravel, tu te trouves à marcher. Après, c'est pas un long passage, mais c'est un peu mixte quand même, Badlands, hein. C'est quand même, moi, je m'attendais à voir du gravel comme dans les Bardenas Reales ou les Montañas Vacías, et c'est un peu plus rude que ça, en fait, hein. Ça tape un peu plus,
Après, quand on voit les photos,
de sable, quand t'arrives à Almeria, tu marches un bout de temps sur la plage aussi. Ça, c'est pas très drôle. Moi, je te conseille, tu vois, quand tu marches sur la plage à Almeria, attends d'être vraiment au cœur de la ville d'Almeria pour enlever le sable dans tes chaussures. Fais pas comme moi, parce que moi, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était terminé. Du coup, je m'arrêtais, j'enlevais le sable dans mes chaussures, j'avais une chaussette, je perdais du temps à faire ça. Et 10 minutes après, je me retrouvais à remarcher dans le sable, quoi.
Donc, il faut vraiment attendre d'être dans
Vraiment
Almeria.
Attendre le moment où ça monte. Voilà.
Ouais.
Quand tu sens que tu vois, t'as la mer à ta gauche, et puis d'un coup, hop, tu tournes le dos à la mer et tu pars tout droit. Et alors là, bon courage parce que tu vas vraiment en chier. Elle est horrible cette montée.
C'est quasiment sûr. Ah ouais, non, c'est sûr et certain que je vais en chier. Je le sais d'avance.
Non, mais celle-là, elle est horrible. Elle est vraiment la pire. En plus, moi, je l'ai faite de nuit et tout. Enfin, c'était...
Alors, qu'est-ce que tu entends par horrible? Le revêtement est explosé, le pourcentage est à 18%.
Imagine des galets comme dans un lit de rivière asséché, tu vois.
Ouais.
Mais sauf que ça monte. Tu vois, imagine de monter un lit de rivière asséché, mais à 6, 7, 8%, quoi. Donc, en fait, tu peux rouler. Mais tu peux pas rouler à plus de 7-8 km. Et c'est long.
Ouais. Et c'est long. Et en plus, ça se dérobe. Et en plus, toi, tu l'as fait nuit. Donc, il n'y a pas assez. Ça demande de la concentration. Parce que ça se dérobe sans cesse, les galets.
Ouais. Moi, j'ai dû faire l'intégralité de la montée en danseuse. Parce que, comme c'est vers la fin de la course et après le Maria. Donc, tu vois, ça fait un jour, deux jours dans le cuissard avec la sueur bien corrosive et tout. Je pouvais juste pas rester assis sur la selle et prendre les chocs. De la selle sur le cuissard de ces galets là qui tapent. Donc ouais, j'ai fait l'intégralité en danseuse perso.
Parlons un petit peu du ravito, parce que finalement, bon, la distance, le dénivelé, c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est pas ça qui fait, j'ai l'impression, la difficulté. J'ai l'impression que la difficulté, c'est le ravito et la chaleur qu'il y fait.
Ouais, nous, on a eu 40 degrés, hein, les premiers jours.
Putain, je vais crever, c'est sûr.
Ah ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ravito.
Ouais. Moi, j'ai regardé ta trace hier. Je suis retourné sur ton Strava. J'ai regardé la trace. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. J'ai vu qu'il y a un passage où ça se croise et comme si c'était fait un peu exprès, vers peut-être le premier quart de la course ou les deux tiers. Un croisement où vous traversiez un bled avant de faire une grande boucle et d'y revenir.
Ouais. Ouais.
Et je me suis dit, là, faudra pas louper le ravito. Faudra pas déconner là.
Ah ouais, non, faut vraiment pas les louper. Et moi, mon erreur, en fait, au début, j'étais un peu pris dans le mode course et donc quand je traversais un village je faisais comme d'hab, c'est-à-dire je traverse un village, si je vois de l'eau qui est immédiatement disponible, j'en prends. Ouais. Mais je vais pas commencer à faire des détours et à chercher partout dans le village pour trouver un bar, remplir mes bidons et tout, et ça c'était une énorme erreur en fait. J'aurais dû dès que j'étais dans un village m'assurer de repartir avec des gourdes pleines,
avec le plein. Ouais.
Ça roulait vite, il faisait extrêmement chaud et il y a eu énormément de dégâts le premier jour sur les 200 premières bornes. Il y a eu vraiment énormément de dégâts. Moi, j'ai ramassé des mecs qui étaient assis dans l'ombre. Il y en a un, il était là, il voyait plus. Je dis ouais, ça va et tout. Il me dit non, ça va pas. Je viens de vomir deux fois et tout. Je vois rien, c'est tout noir et tout. Il m'a même pas reconnu, quoi. Je suis parti et je lui dis, je suis vraiment désolé, j'aimerais bien t'aider, rester avec toi, mais t'inquiète pas, tu vois, il y a 250 mecs derrière moi encore, il y a la voiture de l'organisation, ça va bien se passer, continue à boire, et quoi qu'il arrive, en tout cas, voilà, n'aie pas peur que de crever tout seul dans ce fossé, il y a du monde, quoi. Et je suis parti, je lui dis bon allez salut et tout, il m'a fait ouais salut Ben. Le mec ne m'a pas reconnu, il ne voyait rien, il était devenu il était complètement dans un délire et tout. Mais non, c'était très très compliqué. Il faut partir, bah il y a pas de secret, tu vois. Mathia qui gagne, il avait un camelback. Si tu regardes les photos, il a son camelback. Bon, il a pas gagné parce qu'il a un camelback, hein. Il a gagné parce qu'il est super fort.
Ouais. Mais ça aide.
Mais c'était pas le seul à être super fort, tu vois. Il y avait quand même d'autres mecs qui étaient ultra balèzes sur la ligne de départ. Mais voilà, le fait de lui d'avoir cette capacité en eau, ça l'a quand même aidé. C'était quand même le bon choix, quoi. Donc,
ouais.
Après, ça dépend des années, hein. Tu vois, l'année dernière, ils avaient peut-être 30. Nous, on avait 40. Si t'as 30, c'est déjà plus la même limonade, hein. Tu peux déjà faire moins de ravito, partir avec moins de capacité et tout. Mais voilà, ouais. Regarde la météo avant. Moi, j'ai regardé la météo avant. Je me suis dit, putain, c'est sûr qu'on va souffrir, quoi.
Et toi, tu étais parti comment alors? Parce que si Mathia était parti en camelback et que tu soulignes que c'était un bon choix, j'en déduis que toi, tu n'en avais pas.
Non, moi, j'en avais pas. J'avais trois gourdes. J'avais deux gourdes. Normal sur le cadre et une sous le tube diagonal
Oui, j'ai regardé les photos tout à l'heure que David m'a envoyées.
Ouais.
On voit un tuyau sortir de ton guidon. T'as pas un réservoir d'eau ?
J'avais vraiment des bidons cette fois-ci. J'avais trois bidons.
Ouais.
Mais j'avais pas. Non. Parfois, j'ai des poches à eau, hein, ça m'arrive. Mais là, non. Mais j'avais clairement pas assez en termes de capacité. Hein.
Ouais.
Et pourtant, je bois pas beaucoup, je bois moins que les autres. Mais après, voilà, j'avais fait les choix en partant de Paris, quoi. Je me suis dit, ok, bon, j'avais regardé un peu sur l'année précédente les températures qu'il avait fait. Et nous, en fait, là où on n'a pas eu de bol, c'est qu'on est vraiment tombé sur deux,
sur
trois jours d'une énorme vague de chaleur. Et les quelques jours avant la course, moi, j'ai roulé pour aller à Grenade. Il faisait pas du tout ce temps-là, quoi. C'était légèrement couvert. Il faisait peut-être 28, 29, 30, quoi, mais il faisait certainement pas 40. Et voilà, c'est juste, ça a juste été pas de bol.
Pas de chance, ouais. Quand tu pars justement comme ça à Grenade ou aux Canaries, là par exemple, Grenade, t'es arrivé comment ? En avion ?
Je suis arrivé à Malaga en avion.
Ouais.
Et après, j'ai fait Malaga, Grenade. J'aime bien rouler un petit peu avant de.
Ouais. Ça veut dire que quand tu arrives sur un événement, ton kit, il est déjà, ton set, il est déjà prêt depuis Paris, ou enfin,
ouais,
en tout cas de ton lieu de résidence à ce moment-là,
ouais,
mais tu n'emmènes pas d'alternative matérielle ou vestimentaire au cas où ?
Non. Éventuellement, ouais, peut-être vestimentaire, ouais. Peut-être que je ne fais pas toujours le choix au moment de faire mon sac. Ça dépend sur quel événement, le type d'événement sur lequel je vais. Sur un événement comme Badlands, où je savais que j'allais repasser par Grenade avant de partir, je pouvais emmener des alternatives vestimentaires. Mais après, en termes de choix, de ce que je vais emmener comme setup, je le choisis à Paris et une fois que je suis arrivé, voilà, c'est mon choix, il est fait, quoi.
Ouais.
Là, ma seule solution, tu vois, ça aurait été éventuellement d'acheter un Camelback à Grenade quelque part, mais.
Ouais.
Mais c'était ma seule option, quoi.
Ce matin, j'ai reçu le nouveau sac à dos à eau de Happy Dora.
Ouais.
Chris me l'a envoyé tout à l'heure. Enfin, il me l'a envoyé il y a 2 jours et je l'ai reçu ce matin. Ça n'a pas l'air mal. Il y a 2 litres dans le dos.
Ouais.
Ça devient vraiment intéressant. Plus la poche qu'ils ont créée récemment à mettre dans les sacoches, ça devient intéressant. Tu vas vraiment partir, certes, avec un poids conséquent au démarrage, ou au moins une alternative, tu vois, de pouvoir remplir à un moment donné, mais d'avoir une flexibilité, une capacité de stockage à un moment donné,
ouais.
Quitte
après,
à ne pas partir à bloc dès le départ.
La flexibilité, moi, en fait, je trouve que c'est le problème des camelbacks, c'est que la flexibilité, elle n'est pas réelle, parce que ton camelback, quoi qu'il arrive, tu l'as toujours sur le dos.
Ouais.
Donc, j'avais un système pour le Tour Divide 2019, où j'avais deux petites poches à eau d'un litre qui, une fois vides, prennent pas de place et pèsent rien. Et j'avais un petit sac à dos D4 à 3 € en nylon. Et alors, c'est certes beaucoup moins confortable que d'avoir un camelback, mais en même temps, ton camelback, t'en as pas toujours besoin, tu vois. Ton camelback, t'en as besoin quand tu vas avoir une section qui va faire 200 bornes où il va faire chaud et tu sais très bien que tu vas pas trouver d'eau. Et là, tu peux dire, ok, je sais que je vais traverser cette section, je sais que là, au moment où je me ravitaille, tac, je me remplis 2 litres supplémentaires qui prennent pas de place dans mon sac, pas de poids, rien du tout. Mais au moment où j'en ai besoin. Un camelback, pour moi, c'est pas que c'est une mauvaise solution, mais c'est pas une solution flexible. C'est une solution, voilà, tu à partir du moment où tu l'as, tu dois l'utiliser, quoi.
C'est la petite réserve, tu vois, Camelback ou Happy Dora, parce que ce sont deux marques, on dit un Camelback,
oui,
mais en réalité,
Camelback,
c'est un peu comme le frigo et le stylo Bic. Exactement, c'est quand même, ça fait un poids sur les fesses et ça fait aussi un truc sur le dos, ça fait transpirer davantage. Et bah, l'année dernière, j'ai quand même découvert, tu vois, la joie de rouler en short avec un cuissard ou même simplement en t-shirt de trail. Et avant, j'étais un aficionados du Camelback, et quand j'ai eu découvert vraiment la joie de rouler en t-shirt de trail, eh ben, ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est aussi une part de liberté en moins, mais bon, je supporte pas la chaleur, donc il va bien falloir que je trouve une solution. D'où ma prochaine question, comment sont les nuits ? Est-ce qu'il est fait frais?
Oh là là,
ou est-ce que au contraire, il y a une variation de température dingue et qu'il faut sortir le bonnet la nuit?
C'était horrible. C'était horrible parce que moi, j'attendais la nuit en me disant j'ai hâte qu'il fasse frais.
Et en fait, non.
Je me souviens que la deuxième nuit après Almeria, à 3h du matin, à 1000 mètres d'altitude, il faisait 25 degrés. C'était irrespirable. Tu disais, mais quand est-ce qu'il fait froid ici, quoi. Et en fait, on était vraiment dans une telle vague de chaleur que c'était caniculaire. La première nuit était clairement moins chaude.
Ouais.
Mais bon, après, c'était pas du tout dans des variations extrêmes comme le Kirghizistan où t'as 40 en journée et moins 10 la nuit, quoi. Ouais, j'avais emporté carrément la full doudoune avec capuche et tout, et c'était un peu too much, tu pouvais vraiment avec une veste un peu doublée, tu faisais la nuit facile, quoi.
Ouais. Par contre, cette doudoune, elle t'a été, je suppose, d'une grande aide au Kirghizistan, justement.
Alors oui, ne partirais pas au Kirghizistan sans.
Ouais.
Non, ouais, c'est. Alors moi j'ai eu un peu de chance par rapport à Adrien parce que j'étais en avance de quelques heures sur lui. Donc par exemple moi au moment où j'ai eu ma température la plus basse, il faisait je pense moins 8, quelque chose comme ça. C'était vers le sommet de Harabel et lui il était vers le sommet de Harabel bien plus tard que moi. Moi je pense que je devais y être à 22 ou 23 heures, lui il devait être vraiment en plein milieu de la nuit et lui il avait moins 15. Bon, après c'est pas grave, il est suisse, il est habitué,
mais habite à Genève, hein, c'est pas non plus la haute montagne, hein.
Ouais, mais quand même,
bah, il peut monter effectivement facilement sur les côtés, mais bon, c'est pas non plus c'est pas Zermatt, hein, Genève, hein, donc quand même,
ouais, mais bon, les Suisses ils font du ski l'hiver et tout, ils ont l'habitude, quoi.
Ouais, puis
moi, l'hiver, je suis en Thaïlande, c'est pas pareil.
Ouais. Ah, puis c'est un ancien flic en plus, Adrien, donc il a certainement une formation commando.
Je pense pas.
En tout cas, j'espère qu'il lui en fait baver à ce petit salopard.
Mais
il
l'a bien mérité. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il est parti.
Oui, il me l'avait raconté. Et je pense qu'il va, vous allez vous rejoindre, en tout cas, j'espère. Est-ce qu'il va à l'Atlas ou au Rwanda? Faisons
Rwanda.
Une petite parenthèse. Rwanda.
Il va au Rwanda.
Ouais, c'est bien ce que je
Rwanda
croyais.
Et Josh aussi. Josh, ce sera, je pense, un des grands noms qui manquera à l'appel à l'Atlas. Mais ouais, il préfère faire le Rwanda.
La Silk Road, je suppose que c'est la plus dure que tu aies faite.
Ouais, c'est vraiment dur.
La vraiment la plus exigeante et la plus exotique, la plus dépaysante à tout niveau.
Après, tu sais, c'est pas que des parcours, c'est aussi des moments, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que si on prend par exemple le parcours de l'Italy Divide, est-ce que c'est le plus dur? Non. Est-ce que ça a été extrêmement dur l'année où je l'ai faite parce qu'on a eu canicule le premier jour et neige le dernier jour? Oui, tu vois. Ce qui fait la difficulté d'une course, c'est la course en elle-même, mais c'est aussi la compétition, tu vois. La Silk Road, elle est très dure en elle-même. Après, moi, je l'ai vécu d'une certaine manière, qui faisait que j'avais une avance confortable. J'étais sûr de mon fait. Et elle a été difficile parce qu'elle est exigeante, mais elle n'a pas été mentalement aussi difficile que d'autres courses où soit j'étais à la poursuite de quelqu'un, soit j'avais quelqu'un à mes trousses et c'était... C'était mentalement plus drainant qu'une silk où quand j'avais 8 heures d'avance et que j'arrivais à un checkpoint, bah voilà, je savais que je pouvais m'asseoir un quart d'heure, manger une soupe parce que j'avais froid, rigoler avec les volontaires et pendant 10-15 minutes, oublier que j'étais dans une course, quoi. Alors que t'as deux événements qui sont plus courts, plus denses, où t'es à la bagarre tout le temps. Et là, il y a vraiment pas une seconde où tu peux te dire, OK, là, je suis plus dans la course, t'es vraiment tout le temps dedans. Donc, l'ultra, c'est toujours difficile. Mais les difficultés, elles sont multiples et elles sont pas toujours identiques selon les événements auxquels tu participes. Après, dans l'absolu, la Silk, c'est celle qui pose le plus de problèmes, ouais. Parce que tu as le problème de l'altitude, tu montes à 4000, tu as le problème de la météo, puisque bon, voilà, c'est à peu près sûr qu'à un moment tu vas avoir de la neige. Tout le monde en a eu, hein, dans les trois éditions de la Silk, tout le monde s'est retrouvé à un moment pris dans une tempête de neige. C'est sûr que tu vas avoir de la pluie à un moment. C'est aussi sûr que dès que tu vas être sous les 1000 mètres d'altitude, ça va être hyper chaud, caniculaire, très très compliqué. D'autant plus que t'es plus habitué. Donc t'as l'altitude, t'as la météo, t'as aussi des longues périodes sans absolument aucun ravito. Tu peux faire 150 bornes sans croiser un village, rien du tout. Donc si t'as raté ton ravito à ce moment-là, t'es un peu dans la merde. Et après voilà, c'est cassant, ça tabasse. Quand ça monte dur. Quand ça descend doucement. Et tu peux, t'as des risques que t'as pas ailleurs, tu vois. Tu peux t'arrêter pour manger un truc et puis bah voilà, 5 heures après t'as la chiasse et ça te bloque pendant je ne sais combien, tu vois. Ça veut dire que pendant 24 heures, comment tu vas faire sans borne, quoi. Donc il y a énormément de défis, énormément de challenges, de problèmes à résoudre qui font que c'est probablement la plus difficile, ouais.
Il t'est pas arrivé une petite mésaventure où tu as été obligé de faire un détour?
Ah, il m'est arrivé une bonne grosse mésaventure, ouais. Et puis
Ouais,
en fait,
ouais.
en partant du CP2, donc je pense que ça devait être kilomètre 1000, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus loin. J'ai des têtes de rayon qui ont commencé à casser. Enfin, pas les têtes, les écrous. J'ai les écrous, j'en ai un qui a cassé, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Au bout du cinquième, en fait, ma roue, elle tournait plus, en fait, elle touchait les bases du câble. Ils avaient tous cassé côté cassette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux, deux rayons côté cassette, enfin deux rayons côté opposé, et je les ai changés de place pour avoir une roue qui tournait à peu près. Et en fait, j'ai roulé, marché jusqu'à un camp de yourte que je connaissais, puisque moi j'étais arrivé au Kirghizistan un petit peu avant, j'avais déjà roulé là-bas. Donc je suis arrivé dans un camp de yourte que je connaissais, j'ai expliqué. Je savais qu'il y avait une personne qui parlait anglais là-bas, j'ai expliqué mon problème, j'ai dit voilà que j'avais besoin d'un taxi pour aller en ville, dans une quincaillerie. Et j'ai eu énormément de chance parce qu'en arrivant dans cette quincaillerie, j'ai trouvé des écrous pour mes rayons. Et j'ai complètement re-rayonné ma roue. J'ai pu reprendre la course, mais ouais, ça m'a coûté, je pense, 7 heures, 7-8 heures. J'ai perdu 7-8 heures sur un événement comme ça.
Est-ce que tu as eu peur de... Est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'abandonner à ce moment-là?
Ouais. Je pensais qu'à ça. J'ai vraiment, pendant toute cette nuit-là, à partir du moment où le troisième rayon casse, le troisième écrou casse, je me dis là, c'est fini. Je roule, je continue à rouler. Mais je me dis, ils vont casser les uns après les autres et je vais pas pouvoir réparer. Si je veux changer mes écrous, il va falloir que j'aille jusqu'à Bishkek. Si je veux aller jusqu'à Bishkek, je vais perdre 36 heures. 36 heures, c'est sûr que j'allais me faire passer devant. Non, j'ai vraiment passé toute une nuit à penser que c'était fini, quoi. À me dire, voilà, tout est gâché. Parce que quand j'ai eu la chance de trouver des écrous dans une quincaillerie, dans un village, j'ai vraiment eu énormément de chance.
T'es retourné à Bishkek ou c'était juste dans un
Non,
village?
non, c'était dans un village, c'était pas loin.
Ouais.
J'ai dû faire une heure et demie de route depuis là où j'étais pour les trouver, quoi. Mais c'était pas du tout garanti que j'en trouverais, hein. Je me disais, enfin, j'avais cet espoir, quoi, de me dire, ouais, voilà, je peux marcher jusqu'à, même si c'est long, je peux marcher jusqu'à Tashrabat, là où il y a les yourtes. Mais après, voilà, une fois que je suis là, je sais que je peux prendre un taxi. Mais je sais pas jusqu'où je vais devoir aller pour trouver des écrous pour mes rayons, quoi. Et j'ai eu la chance de pas devoir aller très loin. Mais ça aurait pu être bien pire, ouais.
Est-ce que c'est vraiment de la chance?
Ouais, c'est pas que de la chance, c'est parce qu'après, enfin, on pourra en avoir parlé avec pas mal de gens. Tout le monde ne sait pas rayonner une roue. Tu vois? Il y a des gens, ils auraient même dû commencer à porter leur vélo à partir du moment où le cinquième rayon il pète. Parce que, voilà, si t'as jamais rayonné de roue de ta vie, tu sais pas que tu peux corriger le voile en dérayonnant deux rayons côté opposé pour les mettre côté cassette, tu vois. Donc c'est pas que de la chance, mais il y a aussi une part de chance dans le fait de trouver ce dont tu as besoin pour réparer. Après, il faut évidemment la compétence de réparer, quoi. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'adore ce sport, parce que c'est pas du 100 mètres, quoi. Tu vois, c'est pas juste un athlète qui est très très fort et qui s'entraîne très très bien et qui est très très rapide. Il faut énormément de compétences, tu vois. Même parfois, il faut des compétences, j'ai envie de dire, que tu as acquis au long de ta vie, quoi. Bon, il se trouve que moi, sur le dernier jour de la cycle, je suis malade. J'ai mangé un truc qui est pas passé et ça m'a affaibli. Mais ça aurait pu m'arriver avant, en fait, tu vois. Mais je me dis peut-être toutes ces années que j'ai passé à voyager, à manger tout et n'importe quoi. Et ben, peut-être au moment où, tu vois, Adrien est tombé malade juste avant ou juste après le CP2. Bon, après, bon, Adrien, il a énormément voyagé aussi, donc c'est pas un bon exemple. Mais ouais, tu vois, il y a des... Quand t'as un background de cyclotouriste comme ça qui a baroudé dans plein de pays, peut-être que ton estomac, il est fait de telle façon qu'il va t'en falloir un peu plus que le mec qui est derrière toi avant que toi tu tombes malade, quoi. Donc pour moi c'est juste un ensemble de choses, tu vois, être débrouillard, se dire ok, comment je fais à partir de maintenant pour trouver de l'aide, pour me faire emmener à tel endroit et tout, c'est aussi ça que je trouve intéressant, en fait. C'est que pour être un bon backpacker, c'est pas juste les jambes. C'est les jambes, c'est la tête, c'est ton histoire sur le vélo, c'est est-ce que tu sais entretenir ton vélo, est-ce que tu sais le réparer, jusqu'à quel point tu sais le faire, à quel point tu es débrouillard, à quel point tu vas réussir parfois à réparer une panne avec quelque chose qui traîne sur le bord de la route, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant, moi, dans ce sport, je trouve.
J'ai un trou de mémoire.
Ah bah ouais, c'est pas grave. Tu veux que je brode encore? Tu veux que je continue à...
Non, non, je vais assumer parce que ça m'arrive de temps en temps, donc je vais pas non plus. Je vais attendre que ça revienne, hein, tranquille. Et puis voilà. Mais je voulais juste aussi, ouais, parce que tu me dis c'est de la chance, etc. Mais depuis tout à l'heure avec l'Atlas, tu me dis que tu as un plan, que tu as une volonté farouche, etc. Est-ce que cette volonté farouche, d'une certaine manière, elle ne se traduit pas de manière un petit peu. C'est difficile à expliquer sans passer pour un givré ésotérique, mais que à force de vouloir réussir ou de refuser une forme d'échec ou de refuser qu'il t'arrive quelque chose, quand malgré tout il t'arrive quelque chose, tu en viens à trouver la bonne solution et comme par hasard, si tu as besoin d'écrous, ils sont dans le magasin parce que tu as
Oui.
besoin qu'ils soient dans le magasin.
Moi, je le rapprocherais d'une réflexion que je me suis souvent faite. C'est que quand je ne dois pas tomber malade, je tombe pas malade. Quand je suis dans une course, si je roule toute la nuit par 5 degrés et que j'ai que mon jersey et que le matin, je suis complètement enroué, je tousse et tout, je suis pas malade quand même, tu vois. C'est comme si mon cerveau disait à mon corps, ok, là non, un autre moment, si tu tombes malade, tu tomberas malade. Là, c'est pas possible. Là, c'est le moment où on est tous mobilisés, on est tous aidés, on est tous ensemble. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose comme ça, un moment où ton cerveau et cette volonté farouche, elle prend le contrôle et elle dit, OK, C'est l'instant T. Là, on doit se serrer les coudes pour assurer. Et moi, ça m'est arrivé de prendre le départ. Tu as par exemple l'Inca Divide. Je prends le départ, je suis malade. Et quand tu prends, quand t'es malade et que tu genre juste tu roules toute la nuit dans un froid mordant, il y a des chances pour que tu tombes un peu plus malade, tu vois. Mais moi, j'ai guéri parce que juste, tu vois, t'es concentré sur le fait que voilà, maintenant c'est la course, tu dois arriver au bout et peu importe quoi, peu importe ce qui se passe, c'est ton objectif maintenant. Après, oui, moi, je te dis que j'étais désespéré et que je pensais que j'allais devoir abandonner, mais c'est après la casse de mon troisième rayon, quand j'avais deux rayons cassés, j'étais là, je me disais, en fait, voilà, je suis sûr que je vais pas avoir un troisième rayon qui casse, parce que si j'ai un troisième rayon qui casse, ça veut dire que je vais en avoir un quatrième, un cinquième, et si ça arrive, ça veut dire que je vais devoir abandonner. Et donc, comme c'est pas possible, je me suis dit, mes rayons, ils vont s'arrêter de casser, tu vois. Mais moi, c'est comme ce que je te racontais sur l'Atlas, où j'étais persuadé qu'il pouvait rien m'arriver parce que c'était mon destin de gagner là. Donc moi je suis de nature optimiste, hein, tu sais, c'est normal d'avoir des idées noires quand voilà, il est 2h du mat et que tu es en train de rayonner ta roue en disant mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire, je vais devoir abandonner. Mais au fond de moi, tu vois, j'avais toujours ce plan d'aller jusqu'à Tashrabad, de prendre un taxi, de trouver des têtes de rayon, tu vois, et je voulais pas lâcher, quoi. Je savais qu'il y avait une petite chance pour continuer. Et après, tu vois, quand je suis arrivé dans cette quincaillerie, je me suis dit c'est bon, je vais en trouver. C'était pas évident, hein, mais pour moi ça allait arriver, quoi.
Donc ça confirme bien, mais en même temps j'invente rien, hein, parce que d'autres l'ont théorisé, expliqué largement mieux que moi, que quand on a un plan, à force de vouloir d'avoir un plan et de se tenir à son plan, cette construction mentale devient réalité.
C'est possible. Bon, je suis pas un contre-exemple en tout cas.
Ouais, bon, écoute, la prochaine fois, moi je suis à Paris la semaine prochaine, je te propose qu'on fasse une séance de spiritisme, et puis on verra ce qu'on peut faire. Et justement, quand ton plan vient un petit peu à vaciller, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu restes blindé ou est-ce qu'il y a un moment donné où ça se lézarde un tout petit peu? Je mime la lézarderie. Ou est-ce que vraiment tu restes dans ton plan et tu fais abstraction, tu fais fi de ces petites lézardes? Que se passe-t-il?
Bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut continuer à avancer. Que ce soit qui est un fond de désespoir, de dire putain tout va mal, je vais si ça continue comme ça, je vais devoir abandonner, ou que ce soit plutôt un moment d'optimisme de se dire ok là ça va mal mais ça va aller mieux plus tard. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à avancer. C'est le leitmotiv d'une course de bikepacking, c'est que si t'es pas en train de dormir, t'es en train d'avancer, quoi. Et le plan, ça reste de toute façon d'avancer. Donc que j'ai des idées noires ou pas, j'avance. Tu vois, là, quand j'étais au moment dont on part sur la Silk, c'est un lac, je suis en train de traverser un lac asséché où il y a même pas de, t'as même pas de piste, hein, tu vois, tu suis la ligne droite sur ton GPS.
Sur ton truc.
Mais, t'es au milieu des fourrés, des espèces de buissons de sauge là et tout. À ce moment-là, même quand je me dis c'est foutu, j'avance, tu vois. J'avance. Il y a pas un moment où j'avance pas, quoi. C'est juste qu'il y a pas, il y a pas, il y a, il y a rien qui vient justifier le fait de plus avancer. Et j'avançais clairement pas avec la même détermination que quand tout allait bien. Et pareil, quand finalement j'arrive à Tashrabat et que je demande à avoir un taxi. Alors, quand je dis un taxi, faut pas que les gens s'imaginent que c'est une voiture avec écrit taxi dessus qui arrive, où il y a un compteur et tout. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va appeler quelqu'un qui a une voiture et qui va lui dire ouais, si tu viens tu peux gagner tant. Il dit bah ouais, ok, j'ai rien à faire, je viens. C'est ça qu'on appelle un taxi, qui résistant. C'est pas mais ouais, quand je demande à avoir ce taxi et qu'on me dit ouais, il sera là dans une demi-heure, bon, au bout d'une heure, quand il est pas là, je trépigne pas, tu vois. Je me dis bon, de toute façon, au point où j'en suis, qui soit là maintenant ou qui soit là dans une heure, ça change pas grand-chose. De toute façon, je sais que je vais perdre des heures avec ce truc-là. Mais c'est de toute façon, tu peux pas ne pas être affecté par ce genre d'événement. Mais c'est difficile de rester complètement stoïque. Mais personnellement, je continue à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour régler le problème.
En plus, c'est le genre de pays où on n'a pas la même conception du temps.
Pas du
Donc,
tout,
quand ouais. Il te dit j'arrive, ça peut être le lendemain.
Ouais, ouais.
Il me semble qu'en Iran, il y a quelque chose comme ça où le temps et les paroles données n'ont pas la même importance que chez nous. Où quand on dit j'arrive, bah, c'est j'arrive et j'y vais. Hmm. Et il y a des pays où quand ils disent j'arrive, bah, ils partent le lendemain. Quoi.
Ouais, ça veut dire qu'à un moment, je serai là. Quoi. Cela dit.
Ou pas, d'ailleurs.
Ayant beaucoup voyagé et connaissant l'Asie centrale, au moment où la femme me dit dans une demi-heure, je sais très bien que c'est pas vrai. Je sais très bien que elle peut pas appeler, trouver quelqu'un qui a une voiture et qui va venir et qui est a priori probablement dans un village qui est pas là quoi. Parce que là on n'est pas dans un village, on est dans un camp de yourte.
Ouais.
Et que ça veut dire que le mec il serait prêt là comme ça, il serait chez lui à attendre qu'une chose, c'est-à-dire de sauter dans sa voiture pour aller à Tashrabat. Donc au moment où elle me dit une demi-heure, je sais très bien que c'est pas vrai. Il se trouve que ça a pris une heure et demie, c'est plutôt un bon délai. Quoi. J'ai vraiment, pour ouais. le coup, là, j'ai eu plutôt du bol. Au bout d'une heure et demie, j'ai rentabilisé mon temps parce que j'ai mangé et j'ai dormi. Donc c'était pas
complètement perdu.
Mais oui, c'est aussi l'avantage d'avoir bourlingué et de savoir que la notion du temps n'est pas du tout la même en Asie centrale et en Europe.
Question bête, parce que j'ai jamais vu de campement de yourte. Est-ce qu'il t'arrive de te demander quand tu vois ça, enfin, quand, à un moment donné, quand tu sors de ta bulle, de te dire, putain, il y a des gens qui vivent ici vraiment, quoi. Parce qu'on les voit à la télé, on les voit dans des reportages et tout. Mais n'empêche qu'ils habitent là. Et ça doit être quand même dingue de se dire que les gens habitent réellement là, qu'ils vont grandir là, qu'ils vont vieillir là, et que très probablement, ils vont faire toute leur vie ici. Enfin, c'est un changement de cadre complet, tu vois, par rapport à nos vies, par rapport à d'autres endroits, qu'il y a vraiment des gens qui habitent là-bas. Ça peut paraître bizarre
Alors,
comme réflexion,
ouais,
mais c'est que vivre dans une yourte au Kirghizistan, c'est tellement loin de nos vies.
Alors ouais,
que
ouais,
je me dis, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue.
Ils sont pas là-bas à l'année. Parce qu'ils peuvent pas habiter dans une yourte à 3500 mètres d'altitude l'hiver. Hmm. C'est pas viable quoi. Et en plus ils en feraient rien parce que c'est des bergers qui ont des troupeaux. Les troupeaux ils ont rien à manger.
Ouais.
Non après moi j'avais déjà voyagé au Kirghizistan. C'est un camp de yourte que je connaissais pour y avoir dormi et tout. Donc j'étais pas dans ma bulle et j'avais déjà eu l'occasion de voir et de témoigner de la manière dont ces gens vivent. Et ça fait de toute façon plus de 10 ans que je voyage à travers le monde et que je vois des gens vivre de manière complètement différente dont nous on vit. Donc c'est pas quelque chose qui me surprend ou qui attire particulièrement mon attention.
Où est-ce que tu vas devoir aller pour être surpris maintenant? Sur Mars?
Je sais pas. Après, l'idée c'est pas forcément d'être surpris. L'idée c'est d'être.
De se dire qu'au moins là, tiens, tu connais pas et que t'es quand même un petit peu, un petit peu surpris ou au moins de se dire ah ouais tiens là.
Intéressé, interloqué, dépaysé.
Ouais, ouais.
Y a plein d'endroits où je suis pas allé encore. Hein, mais.
Il y a surtout l'idée, c'est plein, d'être dans plein d'endroits où on risque pas d'aller.
De pas avoir ces repères voilà, c'est sûr que plus ça va et plus j'ai de repères mais j'ai envie de dire à l'arrière c'est pas plus mal parce que la première fois que je suis parti extrêmement loin j'ai atterri à Bangkok et j'étais pas effrayé mais j'étais vraiment intimidé quoi. Je crois que j'ai dû passer devant 30 restaurants avant de m'arrêter dans un restaurant pour manger et me dire ok c'est pas grave si tu parles pas la langue tu vas quand même réussir à manger un truc tu vois. Ça c'est les tout débuts de ce que c'est que de voyager et après tu une fois que t'as passé ce cap là bah ça marche dans tous les pays quoi. On peut te lâcher à peu près, on peut me lâcher à peu près n'importe où, je vais réussir à me démerder pour survivre, trouver à manger, trouver un toit pour dormir. Mais bon, c'est toujours ce qui me fait rêver, ce qui me fait vibrer, c'est toujours ce que j'ai envie de faire. Ouais, je sais pas exactement où il va falloir aller pour avoir peut-être, je sais pas, quelque part en Sibérie en hiver et voir des gens vivre dans des conditions encore plus extrêmes à Irkoutsk ou dans des coins comme ça. Ouais, bon, je sais pas si j'ai envie d'y aller, quoi.
Moins 47 hein, là-bas quand même.
Compliqué, hein?
Hein. Ouais, c'est un peu. Puis tu feras pas beaucoup de photos parce que dès que tu sors ton appareil, boum, plus de batterie, tout se gèle quoi. Donc faut passer un
Ouais,
temps
puis
fou.
la doudoune des quatre, elle suffira pas. Hein.
Ah bah non,
Enfin, mais
là
c'est
ça
sûr.
suffit.
Vraiment
Là
plus
ça n'y
de 50 balles dans la doudoune.
ira pas du tout. Et t'avais pas un projet très long, genre 16 000 km, un truc comme ça? J'avais vu, cru voir passer ça il y a quelques semaines.
Ouais, j'ai un projet de record intercontinental, enfin transcontinental, qui est un record qui est détenu actuellement par Jonas Deichmann, que tu dois connaître.
Qui est arrivé il y a quelques jours de son tour du monde en triathlon.
Ouais, qui s'est coupé les cheveux et rasé, et je ne l'ai pas reconnu. Ouais, donc il détient un record de traversée transcontinentale entre Lisbonne et Vladivostok. Bah moi, c'est réminiscent de ce que j'ai fait en 2017, quand j'ai fait Paris-Taïwan. C'était mon voyage le plus incroyable à ce jour. Et j'ai envie de refaire quelque chose de similaire. Et donc ce record, pour moi, c'est l'occasion tout simplement de repartir sur les routes et de revoir ce que j'ai vu à ce moment-là et peut-être encore mieux et encore plus spectaculaire.
Ça signifie par record, tu entends que tu seras au-delà d'une recherche de plaisir et de paysage. Ça veut dire aussi que tu vas t'imposer les mêmes contraintes que sur une course.
Ouais, alors n'exagérons rien. Sur une course, une course, ça va durer, allez, quoi, maximum 2 semaines sur un Tour Divide, et en général, ça dure, allez, une cycle, c'est long, c'est 8 jours, et en moyenne, ça va être quoi, 4 jours, quoi, tu vois, une attelée, c'est 4 jours. La pression que tu te mets sur 4, 8 jours, et la pression que tu te mets sur 2 mois, ça peut pas être la même, tu vois. Tu peux pas te faire des nuits, enchaîner des nuits blanches quand tu pars pour 2 mois, quoi. Et tu peux pas passer 2 mois à
À
avoir
fond.
la même pression, à dire ok, je m'assois pas pour manger, tous mes repas je les prends sur le vélo, tu vois. Il y a évidemment une pression supplémentaire par rapport à simplement faire un voyage pour son plaisir, étant donné où Jonas a mis le record, moi je me dis que je peux encore me faire plaisir. Tout en établissant un nouveau.
Ça te paraît donc, entre guillemets, facilement accessible.
Oui, relativement facilement
Ouais.
accessible. Ouais.
Ouais.
Mais sans faire insulte à
Bah
Jonas,
non,
puisque
mais
même
non.
lui-même, c'est lui-même qui m'en a parlé et qui m'a dit ouais, voilà, c'était mon premier record. Je l'ai pas mis, je l'ai vraiment pas mis très haut. Et si tu veux en tenter un, moi je pense que celui-là, c'est le bon, quoi.
Moi, je pense que tu t'es fait avoir.
Tu crois?
Parce que derrière, il va y retourner, il va te mettre une raclée.
Ouais,
En fait, là, il
ouais, mais
cherche juste à avoir de la concurrence, en fait.
s'il met une raclée en traversant tout par la Russie, ouais,
Voilà.
tant mieux pour lui, mais moi, ça ne m'intéresse pas spécialement.
Il faudra déjà essayer de survivre à la conduite des Russes, parce que m'avait-il dit, c'était quand même assez sportif et il a quand même failli laisser la peau plus d'une fois.
Ouais,
Donc,
c'est pour ça que moi, j'ai absolument pas l'intention de passer par la Russie.
Ah non, mais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire et que j'oublie systématiquement de te demander?
Oh là, ça, faut me poser la question par mail d'abord, parce que
Mince.
faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu oublies toujours de me demander? Je ne sais pas, Richard. Je ne sais pas du tout.
Eh bien, écoute. Ça te fait l'occasion d'y réfléchir pour la
Ouais,
prochaine fois. Je te dis.
je ferai la question.
Exactement. Et voilà, exactement. Comme ça ressemblera à une véritable interview politique.
Ouais.
Tu feras les questions et tu les enverras aux journalistes avant. Très, très bien. Un vrai travail d'investigation. Ouais. Nickel. Je te dis à dans 3 mois.
Ouais.
Et je te laisse pour la minute de solitude. La dernière fois, je t'ai donné un thème imposé. Et bien là, ça va être thème libre, patinage artistique. Donc, je te laisse improviser. Quand tu as terminé, tu laisses ton ordinateur ouvert, tu laisses tout tourner et je m'occupe de tout. D'accord ?
Ok.
Merci beaucoup, Sofiane. À très bientôt.
Avec plaisir, Richard. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ma minute de solitude ? Je pense que je pourrais chanter. Mais qu'est-ce que je pourrais chanter ? I call you when I need you. My heart's on fire. Come to me, wild and wild. Come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it strong, babe. Simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hang up every word you say, tear us apart, baby, I would rather be dead. Simply the best.
Parfait. Je crois que tu manges froid.
Tiens, t'as pas fait de bruit, t'as pas dit la même chose.
Très
pro.